Bonjour Hélène.
Bonjour Martin.
On parlait de homard.
Oui.
Parce que, faut que je le dise, je vais y revenir tantôt. Mike, ça nous a fait une livraison sur le homard, puis ça nous a amené à parler de homard, puis toutes sortes d'affaires. Hélène, revenons sur la suite concernant le salaire des élus et la révision à venir.
Oui, bien écoute, moi, j'ai pas l'impression que ça va amener à beaucoup de changements parce que, premièrement, dans le rapport, on lit que les élus sont satisfaits de leur salaire, à quelques exceptions près. Les anciens élus qui ont été consultés, eux autres aussi étaient satisfaits de leur salaire. Mmh. Donc, on pourrait même se poser la question...
Pourquoi on le fait?
Exactement, tu sais.
Est-ce que c'est pas l'histoire beaucoup des comités et des salaires liés à ces comités?
Ça, il y a ça parce que ça crée de l'inéquité. Hein? On le dit, donc, quelqu'un qui est président d'un comité payé, l'autre qui assiste n'est pas payé. Bon, il y a des enjeux là-dessus, mais donc effectivement, le gros de la réforme devrait passer par une revue en profondeur des comités. Puis ça, j'ai pas l'impression que le conseil va se lancer là-dedans. Je serais très surprise de ça.
Ou que si on le fait, ce sera applicable pour le prochain mandat.
Ah, certainement, oui. Ouais. Puis l'autre chose aussi que je regardais, parce qu'à Québec, là, ils vont... revoir aussi la rémunération des élus. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont augmenter la valeur de la location pour tenir compte du fait qu'elle est maintenant imposable à un palier de gouvernement. Mais ils ne fonderont pas ça dans le salaire.
Oui.
Ici, le rapport, lui, il avait l'air à suggérer de le fondre dans le salaire. Ça, ça a un impact supplémentaire qu'il ne faut pas oublier.
Mais ça,
au niveau des régimes de retraite.
Ouais, j'ai essayé de le faire clarifier à M. Tanguy en entrevue. J'ai pas été capable. À savoir vraiment, vas-tu le fondre ou pas? Parce que là, il parlait d'augmenter le salaire de base pour quasi inclure les salaires liés au comité, mais on garderait peut-être l'allocation puis on la majorerait par rapport à l'impôt. Mais encore aujourd'hui, je suis pas convaincu de ce que je viens de dire.
Oui, c'est ça. En tout cas, peut-être que ça serait bon de faire comme au provincial, de majorer l'allocation et non pas l'inclure dans le revenu parce que le régime de retraite des élus, il est très généreux, donc il coûte cher aux citoyens. Hein?
Ouais.
L'élu paye à peu près 25 % puis la ville la balance.
Et il y a une chose qu'on oublie dans ce qui est accordé comme financement aux conseillers, conseillères, c'est le fameux budget de recherche et de soutien.
Oui, ça c'est le seul budget qui doit être accompagné de pièces justificatives quand l'élu le dépense. Le budget d'allocation, là, t'en fais ce que tu veux, tu t'en sers comme salaire ou pour acheter des billets. Tu fais ce que tu veux. Budget de recherche, lui, tu dois arriver avec des pièces justificatives. Et ça, c'est quand même 20 000 $ par conseiller.
Et factures, que ce soit Internet, l'opération de site Internet, la recherche sur des dossiers
ça,
que tu donnes à quelqu'un.
Exactement, parce qu'on dit budget de recherche et soutien.
Ouais.
Donc, les gens, s'ils sont débordés parce qu'il y a beaucoup de comités, ben, ils peuvent embaucher des gens pour les aider. Puis, il y a d'ailleurs 9 conseillers sur 14 qui le font. Et ils payent des gens pour les aider à faire des recherches, certaines tâches. Ça, c'est fait. Je regardais ça, par exemple, puis hier, on a parlé de budget d'allocation pour acheter des billets, mais j'en fais.
Ouais.
C'est souvent utilisé comme salaire parce que les billets, tu peux t'en faire donner par l'arrondissement, le cabinet de la mairie, etc. Mais là, j'ai vu qu'il y a des gens qui prennent leur budget de recherche pour se payer des billets. Il y a deux élus, entre autres, qui font ça. À hauteur de 700, 800, 1000 $ par année.
Et même pour participer à des congrès,
à des golfs.
Puis à des golfs.
Ben, les congrès, c'est correct parce que c'est de la formation.
Ouais.
Et ça, c'est permis.
Ouais.
Mais un souper, s'il n'y a pas de formation, un golf, là, tu n'as pas été chercher de formation, là. Je ne comprends pas que la ville accepte ça puis rembourse ça.
En fonds de recherche.
Exactement.
Ça devrait être dans ton allocation de
dépenses. Exactement. Même chose pour des commandites. Il y a des conseillers là, qui montent des comptes de 5 000 $ de commandite, 1 000 $, 1 400 $. Je ne comprends pas ça aussi que c'est accepté. C'est bien dit dans le chose. Sont admissibles les frais de publicité autres qu'une commandite. Fait que je pense qu'il y a des élus qui peut-être se servent de ce budget-là, un petit peu comme les députés ont un budget discrétionnaire pour aider différentes causes.
Ouais.
Pas le conseiller municipal. Ça, c'est dans ton allocation si tu veux prendre ça. Et ce qui m'a le plus surpris, surtout en plein débat sur la laïcité, écoute, il y en a qui paient des montants de plusieurs centaines de dollars par année à des églises.
Dans le fonds de recherche?
Dans le budget de
recherche
soutien
et recherche.
Oui.
Ça n'a pas d'allure.
personnellement, écoute, je trouve pas, mais...
Ça a passé, là.
Donc, je sais pas, la ville laisse aller.
Oui, parce que c'est dans les relevés, d'ailleurs, qui sont disponibles.
Oui, 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 je suis allée chercher, là, hier soir sur le site de la ville, là, parce que, justement, donc, oui, les gens sont un peu plus occupés, mais ils ont ce budget-là où ils peuvent embaucher des gens, puis on le voit, il y a des élus qui s'en servent et c'est correct.
Et il y a même des élus qui se partagent certaines ressources, donc il y a des ressources qui se font quand même une pas pire paye sideline.
Ben oui, effectivement, on voit que, je ne sais pas si c'est de façon concertée ou non, mais on voit qu'il y a trois élus qui ont recours à la même personne, deux autres élus qui ont recours à la même personne, ce qui fait que les gens vont aller chercher des 12 000, 22 000 par année.
Hélène, tu as été conseillère.
Ouais.
Quand on parle que ça prend des pièces justificatives, est-ce qu'on demande des explications? C'est à savoir que voici, je donne 600 pièces, mettons, deux semaines à telle personne pour soutien et recherche. Est-ce qu'on te demande c'était dans quel but?
Pas pour le remboursement. C'est, puis même, je dirais, on dirait, à la moitié du mandat, comme la ville, on dirait qu'il laissait tout passer, là, qu'il disait, là, c'est à vous autres de vous assurer, vous vous conformez, nous, on le vérifie plus. Ça sonnait un petit peu comme ça.
Mais c'est inquiétant pareil.
Mais tu dois normalement avoir un contrat avec la personne qui détaille.
Okay.
C'est certain que moi, à l'autre mandat, des fois, je ne voulais pas trop donner d'informations parce que là, avec le parti, la vie c'était comme un peu du secret professionnel. Tu ne voulais pas qu'ils sachent un mois avant sur ce sur quoi tu étais pour sortir, puis de quelle façon, etc.
Quel dossier tu voulais documenter
davantage. Tout à fait. Fait que, donc,
mais il n'y aurait pas une vérification à faire supplémentaire?
Je ne sais pas. Les gens sont supposés d'avoir leur contrat. Je ne sais pas si on demande...
Mais tu sais, tu parlais tout à l'heure là, de commandites, de trucs comme ça. Là.
Ça, oui. Ça, il me semble que la ville devrait se repencher là-dessus. Là, avec des budgets qui ont augmenté maintenant à 20 000 $ par conseiller, parce qu'il y a moins de conseillers.
Ouais.
Ben, raison de plus là, pour...
vérifier davantage.
Effectivement.
Pour pas qu'on laisse traîner de mauvaises habitudes. C'est aussi ça, là.
Très bien,
parce que
très bon point.
Si c'est permis une fois, il y en a qui vont s'essayer plusieurs fois, là.
Oui, effectivement.
Hein? Un mot sur la sortie de Guy Rocher concernant la commission sur la laïcité, l'influence des profs sur les élèves.
Oui, hein, c'est souvent la partie pour laquelle il y a plus de gens qui se disent « Ah, j'irais peut-être pas aussi loin que les profs ». Mais une des premières choses qu'on apprend en pédagogie aussi, c'est que le transfert de la connaissance se fait... pour qu'il se fasse bien, il faut qu'il y ait un lien qui s'établisse entre le professeur puis l'élève. Exactement. Fait que ça nous fait dire, nous, les profs, on sait qu'il faut toujours être conscient à tous les moments de ce qu'on fait devant les étudiants parce qu'on est des modèles.
Il y a l'influence.
C'est ça. Puis Guy Rocher, lui, il dit, ben faut continuer l'exercice de déconfessionnalisation qu'on a fait dans les années 60. Là, il dit, on voit qu'il y a des religions qui veulent revenir. Donc, faut s'y attaquer tout de suite. Si on ne veut pas s'y attaquer, c'est un mot fort, mais il faut l'encadrer tout de suite.
Ouais.
Et puis...
on le fait avec la religion catholique. Et là, on voit des gens qui s'offusquent concernant le fait qu'on s'adresse à d'autres religions par rapport à d'autres signes religieux. Pourquoi deux poids, deux mesures?
Oui, puis là, la question, c'est qu'il y en a qui disent, ben montrez-nous les études que ça dérange ou que ça traumatise les enfants ou que ça les influence. Ben M. Rocher, hier, il disait, ben les études, ils peuvent pas se faire pour ça en particulier.
Oui.
Mais Francis Veil, lui, là, il est revenu, puis il a fouillé, puis c'est intéressant, il est allé chercher Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre, là. Il est déjà venu à Sherbrooke, au cégep, quand il parle, on écoute.
Ouais.
Puis il disait que lui, quand il fait des psychothérapies, là, il y a beaucoup d'enfants qui lui soulignaient à quel point un petit geste posé par un prof, une petite remarque, ça avait eu une grosse influence sur leur vie.
Ah oui.
Oui, c'est ça. Fait que,
sous-estime?
Effectivement.
Selon toi?
Oui.
Oui.
L'impact qu'on a sur nos étudiants. Puis,
et nos façons d'agir.
Exactement. Moi, ça fait 12 ans maintenant que j'enseigne au cégep de Sherbrooke. Et c'est ma présence en classe, ma façon d'interagir avec les jeunes a beaucoup changé parce que je sais que On est devant 30 personnes, on fait une remarque à un étudiant, ça peut être pratiquement là, la fin de son parcours d'études.
Oui.
Fait que on
est peut-être inconscient de cette influence.
Oui, c'est ça. Puis pour un jeune, prend au primaire, ils sont encore plus influençables,
oui.
Ils sont encore plus en développement.
Oui.
Ben, tu sais, le port du voile, de voir ça là, dans notre société, à tort ou à raison, on l'associe beaucoup avec la soumission, la discrimination entre les sexes. Ben, un jeune qui ferait son primaire avec des enseignantes voilées, ben, il va trouver ça normal. S'il trouve la voile normale, il trouve la soumission normale.
Puis ça va dépendre aussi de ce qu'il a reçu comme éducation par rapport aux religions ou à différentes situations de la vie. Tout influence quelqu'un. T'sais, même adulte, là, on est influencé par toutes sortes de choses.
Oui, c'est ça. Mais là, en classe, l'enfant, il est là plusieurs heures par jour.
Mais il est plus longtemps là qu'à la maison.
Bien souvent, presque, à part d'être dans son lit.
Oui.
Puis, deuxièmement aussi, c'est ça. Donc, l'enfant est très longtemps en classe et on a un lien d'autorité avec les étudiants.
Tout à fait.
Et même au cégep, là, les étudiants sont plus vieux, là.
Ah oui. Hein?
Début de l'âge adulte.
Oui.
Et des fois, ils nous parlent de ce qui se passe dans certains de leurs cours. Puis là, on leur dit, bien, écoute, vous avez des recours, allez vous plaindre. Ils ne veulent pas.
Hein?
Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de retomber sur le même prof.
Des conséquences que
exactement,
ça peut amener.
Tout à fait.
OK.
Donc, imagine, là,
les tout-petits.
Effectivement.
Oui. Intéressant comme point de vue, Hélène Dauphinet. Merci beaucoup.
Merci, Martin.
À demain.